Artiste en liberté.
Une émission goupillée par Fred et Hervé qui vous fait découvrir, dans les conditions du direct, les artistes locaux.
Ma colère a des racines, elle s'épanche sur la canopée. Elle est ma sève et ma résine, c'est un pur sang au crin de ronce qui dans les plaines de ma poitrine part galoper.
Ma colère est une forteresse dont j'ai obstrué les meurtrières, un monument dont la porte laisse s'échapper quelques réponses aux questions nourries de peur qui naissent dans vos prières.
Quand elle résonne, elle peut disperser la grisaille à l'horizon.
Et j'en frissonne, elle peut déverser la mitraille sur tous les fronts. Elle me fait lutter dans la joie.
Ma colère.
Elle ébranle mon ouverture,
elle est ma colonne vertébrale.
Elle garde mon esprit en alerte,
fait qu'il reste à la verticale.
Elle est mère de ma vigilance, épidermique et urticante. Car plus j'y pense, plus elle décante,
et plus j'ai la paix radicale.
Elle ne tolère plus les discours, le mensonge et les portes étendards. Elle ne peut plus feindre l'amour,
elle vit de son genre des camps loin des décors de carton pâte.
Elle est ma quête de vérité, elle m'a laissé au seuil du monde face à ma seule humanité.
Quand elle résonne, elle peut disperser la grisaille à l'horizon. Et j'en frissonne, elle peut déverser la mitraille sur tous les fronts, mais me fait lutter dans la joie.
Ma colère.
Bonjour les auditeurs de RVM, c'est Artiste en Liberté qui est de retour sous vos ondes. Bonjour Hervé.
Salut tout le monde.
Comment vas-tu?
Ça va.
Alors, nous avons un invité qui vient de loin aujourd'hui.
Ah oui, oui, oui. C'est pas un artiste local.
C'est pas un artiste local.
Mais c'est un artiste qui agit sur le plan local.
Très bien. Alors, on va faire connaissance. Tu nous le présentes?
Cyrano.
Bonjour.
Bonjour Cyrano.
Alors, mais il va se présenter tout seul.
Bah, on va le laisser comme un grand, il va se débrouiller.
D'où tu viens, qui tu es, enfin
et
voilà.
Eh bien, ma foi, je m'appelle Cyrano, de mon pseudonyme, donc Sylvain de mon prénom, d'où le S que j'ai ajouté au Cyrano de Bergerac. Je ne suis pas du tout de Bergerac, je suis originaire de Chartres. Et voilà, j'ai commencé la musique par le rap dans les années 90, et j'ai agrémenté ma musique de vrais instruments, on va dire, de matière plus organique. Et me voilà avec un style musical hybride entre le rap et la chanson à texte, on va dire.
Alors là, tu nous as proposé un morceau. Tu peux nous le présenter, le morceau qu'on a écouté en début d'émission?
Oui, c'est un morceau de mon dernier album qui s'appelle « Du goudron et des plumes », qui s'intitule « Ma colère », qui est en duo, du coup en quatuor, avec un groupe qui s'appelle « La rue qui est à nous », qui sont des amis et avec qui j'officie depuis mes débuts, en fait, donc depuis 2005, on va dire. C'est important à chaque fois pour moi de participer à des choses avec eux et je les invite très, très régulièrement. Voilà, on fait des concerts ensemble et c'est un morceau qui reflète bien mon état d'esprit, on va dire. Voilà. Je nourris des colères, mais j'essaie de nourrir des colères saines.
Alors, c'est pas par hasard que tu as pris Cyrano comme pseudonyme ?
Non, c'est pas par hasard. Je ne lisais plus au collège en particulier, et c'est le livre qui m'a fait renouer avec la littérature. J'ai découvert la pièce de théâtre, et en fait le personnage m'a parlé, le fait, cette espèce de panache, le fait de se battre avec des mots, la rime évidemment, et puis je trouvais ça très moderne. Et c'est vrai que pour renouer avec la littérature, avoir un livre qui se lit assez rapidement, parce qu'on tourne les pages vite dans une pièce de théâtre, ouais, c'était très encourageant, et ça m'a happé. Et de là, j'ai de nouveau lu. Alors, je suis pas un grand lecteur, mais j'ai dévoré après Victor Hugo. Enfin voilà, j'ai pu revenir à une culture qui me semblait poussiéreuse grâce à ça. Donc, j'ai emprunté le pseudo, en effet.
Donc, ce n'est pas l'école qui t'a donné envie de lire, toi ?
Ah non, pas du tout. Non, l'école m'a vacciné contre la lecture, clairement.
Alors, on va quand même savoir pourquoi tu es dans notre région en ce moment. Là, on peut expliquer aux auditeurs ?
Parce que je prends ma revanche sur l'école. Depuis une douzaine d'années, j'anime des ateliers d'écriture. Et totalement par hasard, à la sortie de mon premier album en 2006, on m'a proposé d'aller faire des ateliers. Donc, j'ai commencé en 2008. Donc c'est ça fait 14 ans que je fais des ateliers dans des écoles, dans des maisons d'arrêt, dans des hôpitaux, dans des structures associatives, voilà. Pour le coup, je suis au collège Jean de la Fontaine pendant 2 jours avec des classes de 4e pour parler de discrimination, essayer de faire s'exprimer les jeunes à ce sujet-là en discutant, évidemment, et puis en formulant des choses en rime.
D'accord. Donc ça, c'est ton métier ?
Alors, mon métier, c'est la scène.
C'est
surtout
la scène, d'accord. Voilà.
C'est la scène, c'est faire des disques. Maintenant, en fait, je pourrais dire que la scène, c'est pas un métier. Enfin, pour moi, être artiste, c'est pas un métier. C'est un statut, on va dire, de vie. C'est une manière de vivre. Et que je sois payé ou pas, je serai artiste, finalement. Mon métier, c'est peut-être ça, en effet. C'est peut-être d'aller faire d'animer des ateliers de création. C'est là où, pour le coup, je me sens utile socialement. Là où j'ai pas de contact avec la société quand je suis artiste, simplement en écrivant des chansons et en allant chanter. C'est vrai que je me sens plus en phase avec le monde qui m'entoure dans ces moments-là. J'ai un contact avec l'extérieur.
Ces ateliers d'écriture qui ont toujours un thème précis quand même. Ce n'est pas les ateliers d'écriture pour apprendre à écrire. Il y a toujours quand même un thème important, sociétal.
Alors moi, j'adore ça, pouvoir parler de sujets de société avec les élèves. C'est en grande majorité des gamins que j'ai, hein, clairement, des élèves. J'aime beaucoup amener dans les écoles du débat. Parce que finalement, on se rend compte que les élèves les moins scolaires sont ceux qui parfois ont plus de choses à dire, où ont une plus grande facilité à s'exprimer, et finalement, c'est eux qui vont être le moins adaptés à la vie en collectivité, à la vie sociale telle qu'on va leur demander de l'exécuter, et à la vie active, etc., est faite de compromis, de choses que ces gamins-là sont parfois pas aptes à concéder. Et moi, j'aime bien les gueules cassées, j'aime bien les arbres qui poussent pas droit, donc du coup, j'aime bien aller chercher ces différences-là.
Ouais, excuse-moi, Hervé, vas-y. Tu le ressens quand tu rencontres des élèves, s'il y a un potentiel ou pas dans un d'eux ?
Ah oui, ça, on le ressent très rapidement. Et en plus, souvent, j'ai affaire à la surprise des enseignants qui parfois n'ont pas entendu le son de la voix.
Ça, ouais, c'est ça.
Même il y a des gamins qui parlent pas, qu'on n'entend pas, mais juste parce qu'en fait, ils sont pas. Ça les intéresse pas, l'école. C'est juste ça.
Comment on peut passer d'un album de rap, disons, plutôt, au départ, à des interventions dans les écoles ?
Parce que pour
moi... Il y a un hasard
Non, je pense que le rap, au départ, c'est une musique contestataire et qu'il y a une frange de cette musique qui l'est restée. Même si aujourd'hui, la variété française, c'est devenu le rap.
On n'a pas l'impression qu'au ministère de l'Éducation nationale, on écoute du rap ? plutôt.
Non, bah, en fait, on est un peu souvent une caution à subvention pour faire style qu'on parle aux jeunes. Et pour, c'est comme un peu dans les quartiers quand on vient mettre un coup de peinture sur les immeubles pour faire taire la gronde.
Ouais.
Mais c'est... comment dire c'est un moyen dont il faut se servir, en fait, tout simplement. On m'ouvre une porte, j'entre, je mets le pied, et puis je parle aux gamins avec les mots qu'ils peuvent entendre, quoi. Je suis pas prof, je suis pas là pour intervenir et leur apprendre quelque chose, je suis là pour faire ressortir quelque chose d'eux, d'une certaine manière.
Mais là, dans la lutte contre la discrimination, là, puisque c'est un thème de cette année, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui t'a donné ce thème-là à développer ou pas ?
Alors, c'est pas le ministère. En tout cas, c'est les profs, hein, clairement, les profs qui m'accueillent. Parfois, ont des thèmes qui résonnent dans leur programme à eux, dans les séquences qu'ils sont en train d'étudier. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en application des choses apprises par les gamins sans qu'ils s'en rendent compte. C'est-à-dire que là où ils s'emmerdent, eh ben, moi, je leur montre qu'il y a quelque chose à tirer de ça. Parce que bah, voilà, souvent, j'interviens dans des quartiers populaires, des quartiers plus défavorisés. Et plus que jamais dans ces quartiers-là, le savoir est une arme. Il faut s'armer, il faut apprendre, il faut se cultiver. C'est la seule façon de s'armer contre le monde, quoi.
Et comment les gamins, ils te reçoivent ? Comment d'abord les profs te reçoivent ? Et comment les gamins te reçoivent ?
Alors, les profs, plutôt, c'est bienveillant. Hein. J'ai jamais vraiment de...
Il n'y a pas d'appréhension des profs en se disant...
Si, voilà, ça arrive, parce qu'ils ne savent pas trop comment voilà. Je vais faire le truc. Ou alors, ils craignent qu'en tant qu'intervenant, je vais pas pouvoir m'occuper des mômes. Mais en fait, moi, les mômes, je leur parle totalement naturellement. Je leur rentre dedans et puis... Des fois, je leur fais un peu peur, peut-être. Mais c'est surtout que je parle le même langage qu'eux. On écoute la même musique. Enfin, voilà, je continue d'écouter du rap. Donc, quand ils me parlent de ce qu'ils écoutent, je leur dis, bah oui, je connais. Et en fait, ça brise la glace. Voilà, en tant qu'intervenant, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'intervenants qui viennent dans des écoles. On a ce lien qui peut se créer comme ça, plus naturellement qu'avec la barrière du statut du prof, quoi.
Mais je suppose que tu n'arrives pas à l'improviste comme ça. Il y a une préparation avant dans les écoles.
Alors, généralement.
Pour qu'ils te découvrent,
voilà,
pour qu'ils sachent de quoi tu parles et tout ça.
Ouais, ouais, souvent, il y a cette espèce de petit temps en amont où on leur fait écouter quelques morceaux, on leur dit que j'arrive. Et puis, parfois, ça arrive même que j'envoie une petite vidéo ou un petit message pour que. Voilà, pour qu'on soit déjà en contact. Ça facilite grandement la rencontre. Par contre. Chaque atelier, je le commence par une grosse heure de discussion. Je ne rentre pas dans le vif du sujet en faisant écrire les gamins. Je ne leur propose pas des exercices tout de suite, justement, scolaires. Je leur demande voilà, ce qu'ils écoutent. Je leur laisse me poser des questions sur ce que je fais, sur la vie d'artiste, quoi, on va dire.
Là, tu es deux jours donc, au Collège La Fontaine.
Mm-hmm.
À chaque fois, les interventions, elles durent combien de temps ?
Alors là, j'ai 3 heures par classe. Et du coup, ce matin, donc il y a une intervention qui est passée. On a déjà, avec une classe de quatrième, écrit un texte entier. On a produit un texte entier sur la discrimination, où ils sont allés dépeindre des portraits de plusieurs personnes discriminées de manière différente. Et ça fait une fresque un peu comme ça, qui parle de discrimination, mais en prenant des exemples très précis. Alors voilà, ils personnifient les.
Et ça s'adresse à qui ? Quatrième, troisième ?
Ça commence au sixième ? Non, mais en primaire.
Même en primaire ?
Oui, ouais, pas de souci. À partir du moment où les enfants sont capables de produire de l'écrit, je dirais CE1, CE2. CE2, c'est
ouais.
Bien, généralement. Mais à partir du CE2, ouais, j'interviens. Après, je leur demande quand même pas mal d'efforts. Donc là, je parle vraiment d'un truc très personnel. C'est-à-dire, je pense qu'il y a plein d'artistes qui peuvent aller faire des interventions et qui vont même jusqu'à la maternelle. Moi, j'ai du mal parce que je leur demande de l'écrit, donc, et je les pousse, je leur donne des consignes strictes. Donc,
ouais. Et comment c'est utilisé après ce travail-là ? Est-ce que c'est écouté, je sais pas, par les parents, tu sais pas comment c'est.
Alors
comment
là,
ça termine ?
Il va y avoir une exploitation du texte en question un petit peu plus longue. Alors la prof pourrait en parler bien mieux que moi, mais du coup ils vont réutiliser dans le cadre de l'école et dans un autre projet le texte. Moi, il m'arrive souvent dans des ateliers où je viens peut-être plus longuement. De carrément faire la musique sur les paroles que les gamins ont faites. Donc, ils font la musique avec moi. et je les enregistre. Donc du coup, ils vont jusqu'au bout du processus d'une écriture de chanson.
Ah oui, donc ça, c'est intéressant, oui. Au moins, ce n'est pas un travail perdu, quoi. C'est vraiment...
Non, j'aime bien. Ouais, c'est la seule raison qui fait que je pourrais refuser de venir à un atelier. C'est parce qu'on m'en propose pas mal maintenant par année. Je ne le fais pas quand il n'y a pas de perspective de finalité, en fait. Mmh. Pour moi, il faut qu'il y ait un rendu qui reste, quoi.
Et toi, ça te nourrit pour tes chansons ?
Bah, complètement. Bah, le fait d'avoir ce contact avec, on va dire, la jeunesse... Bien, bah oui, certains pourraient être mes gamins. Y a un truc où ça, on garde une fraîcheur. Parce que du coup, en effet, ils nous font écouter de la musique. On peut avoir un échange qui est même générationnel sur la façon dont eux consomment la musique, dont ils, comment ils voient le monde. C'est hyper intéressant. Et puis, leurs histoires sont parfois hyper touchantes. Ça m'arrive d'écrire des chansons sur des gamins que j'ai rencontrés. Ils ne le savent pas, mais ça s'imprègne. Et carrément, le premier atelier... d'écriture qu'on m'a proposé en 2008 était avec une c'était une figure imposée quoi, c'était un thème imposé sur la télévision et ça a carrément fait naître mon premier spectacle jeune public pour enfants qui était basé sur la télévision.
Cyrano contre le grand zappeur.
Exactement. Exactement, tu es tellement bien renseigné.
Il a bossé l'émission.
J'ai bossé un peu quand même.
Il a potassé.
J'ai bossé un peu. Non mais c'est vrai. Et ouais. On va quand même essayer de te découvrir, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a la musique quand même, c'est important.
Ma foi.
Tu as commencé comme ça, c'est une grande part de ta vie.
Oui.
Oui. Bah justement, en parlant de musique, on pourrait peut-être mettre un deuxième morceau.
Allez.
Tu nous proposes quoi, Cyrano, alors du coup ? Moi, je le sais, hein, j'ai la
fin. Dis-moi, je te l'ai écrit. Et alors,
Des cailloux dans la chaussure.
Allez, celui-là.
De quoi ça parle ?
Des cailloux dans la chaussure, ça parle de ces petites... ces petites traces qu'on garde de notre vécu et qui restent, qui nous gênent quand on avance sur le chemin, quoi, et qui, malgré tout, nous empêcheront pas d'évoluer, d'avancer, de découvrir le monde.
Toute la vie m'inspire de l'air. Il est dur de se défaire des cailloux dans la chaussure entièrement. Pour autant ce n'est pas l'enfer, même si les rires se paient cher, chaque seconde se fait plus légère.
Te rend plus fort. C'est vraiment une phrase de con qui a vécu sans effort. Évidemment que les épreuves te fragilisent et qu'à défaut de cadre, tu te fabriques une Marie-Louise. Il faudra éclater de rire pour changer la donne, exploser chaque instant, inonder d'émotions au minimum, respirer à 100 claques et les poumons. Cette voix est la bonne, ne plus compter la joie par kilo, mais le bonheur en mégatonne. On ne pourra pas se délester de tout, mais à mon avis, c'est notre profondeur qui nous rend volatiles. Rien ne s'évapore, non, rien ne sert à tort. On saura se contenter du flou comme des fous avant l'asile. Tu m'étonnes alors qu'on est tranché nos racines, mais nous bassine pas du moment qu'on amène la sève au port. La légèreté est plus belle quand elle connaît l'asphyxie. Vas-y, choisis une étoile, je t'offre la galaxie.
Tout de la vie m'inspire de l'air. Il est dur de se défaire.
Un jour à force de gâcher, tu apprends à te lâcher. Et tu t'engages enragé à fuir la parcelle ombragée. Tu sais plus que la moyenne quel est le prix de te cacher. Des rayons qui t'appellent et qui pourraient te soulager. Alors tu cèdes et tu te baignes dans leur lumière pour assécher chaque dont tu saignes et sur laquelle on a craché. Tu profites plus alors et plus rien ne pourra étancher ce désir de sourire et de te sentir allégé.
Léger, 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 léger.
Voilà, des cailloux dans la chaussure. Bon, le petit pousset, lui, il se met les cailloux hein, pour se retrouver. Et toi, tu les gardes dans les chaussures. Voilà. Et donc, c'est des enfants que tu as rencontrés qui ont chanté avec toi
ou oui, je les ai rencontrés, c'est mes enfants.
Ah, voilà. Donc, tu les mets déjà à la musique alors.
Oui, bah, ça, c'est clair. Hein. Et à un moment, il va falloir... j'essaie de les amener sur scène. C'est pas encore fructueux, mais voilà, chaque chose en son temps.
Ils ont quel âge? C'est pas indiscret.
Là, ils ont 5 et 9.
Ah oui, ils ont encore le temps. Hein.
Oui, ils sont petits. Mais la grande, notamment, est au taquet. Voilà. C'est génial du coup d'avoir des gamins qui peuvent chanter, qui chantent à peu près juste et qui ont envie. Du coup, évidemment, je mets leur voix sur les albums, c'est trop cool.
Ouais. Alors, avant qu'on rentre un peu dans le détail de comment tu composes, comment ça se passe, mm-hmm. moi j'aimerais savoir, tu faisais quoi avant d'être artiste alors ?
J'ai rien fait avant.
Ah, t'es tombé dans le bouillon tout de suite alors ?
Bah, quand j'ai eu 7 ans, ma mère a gagné un synthé Bon Tant Pis sur la Redoute. Vous voyez ces trucs là ?
Oui, je me
rappelle. Et les cadeaux là. Et avec la soufflerie là, et les piles. Et je récupérais les vinyles et les cassettes de mes parents, puis je recopiais les notes. Enfin, je faisais à l'oreille les mélodies. Donc, c'était tout et n'importe quoi. Eddie Mitchell, Niagara. Désirless, Mozart, Aznavour, Brel, enfin de tout quoi.
Ah ouais.
Et en fait, je crois que dans la foulée, j'ai commencé à écrire des chansons quoi. Du coup, j'ai toujours été bercé par ce truc-là. C'est un truc qui m'a aspiré et assez tôt, à ce moment-là, si je devais l'avouer, je me suis dit bah moi je ferais ça. Hein. Je ne ferai pas autre chose, c'est mort. Je ne vais pas aller me casser le dos pour un patron, c'est mort. Et j'ai compris très tôt le rapport entre les gens qui travaillaient et ceux qui étaient leurs supérieurs. Et je me suis arrangé pour ne pas avoir de supérieurs.
Bravo.
Je ne pense pas que c'était la motivation première, parce que finalement, voilà, je pense que j'ai des choses à dire et je les exprime. Donc c'est vraiment plus ça qui me pousse qui me tire, peu importe. Mais... force est de constater que j'ai une vie libre et je suis très content. Quoi.
Ah oui. Mais quand on commence à écrire et à produire, on a toujours quand même un patron, on a toujours une maison de production et tout ça.
Je suis moi-même.
Comment t'es passé au-dessus de ça ? T'as créé ton propre label.
Voilà, je fais tout seul depuis le début. Donc je fais, c'est ce qui m'amène à faire beaucoup de choses différentes. Donc j'écris mes chansons, donc je vais composer mes musiques, mais au départ... je connais pas les notes, donc en passant par le rap, c'est ça qui était génial, c'est qu'on se décomplexe puisque personne ne connaît la musique hein, dans le rap, mm-hmm. et qu'on compose à l'oreille avec les ordinateurs. Et pour moi, mon ordinateur, c'est mon instrument, donc on peut sampler des morceaux au départ, et puis après, on commence à composer, rajouter des mélodies. Et maintenant, je fais quasiment plus qu'exclusivement de la composition. Mais du coup, comme je voulais aussi faire du dessin, bah, je me suis retrouvé à dessiner dans mes pochettes de disques. Donc j'ai appris à me servir de Photoshop pour maîtriser la filière de l'imprimerie, pour avoir mes pochettes de disques que je vais donner moi-même aux usines pour les faire imprimer. Et finalement, au début, on a commencé à chercher nous-mêmes les concerts. On a monté une asso et cette asso existe toujours et je produis mes disques avec. Et finalement, je produis aussi... les livres que j'écris, les livres pour enfants, la BD et puis les clips.
Ah oui, donc c'est complet quoi. C'est vraiment un packaging complet. Hein,
ouais, c'est un peu ça. Bah, ça. En fait, étant autodidacte, que je dessine, que j'écrive de manière plus longue en prose ou que j'écrive des chansons ou des poèmes, voilà. En fait, c'est la même source d'inspiration finalement et je dis les mêmes choses en enrichissant l'univers d'une chanson et j'adore cette idée de pouvoir amener, par exemple, une vision graphique de ma musique. ce que j'ai dans la tête, moi, au moment où j'écris, évidemment, les gens ne le captent pas. Donc, ils peuvent s'approprier la chanson, se faire une idée, mais pouvoir leur proposer d'aller jusqu'au bout de ce qu'il y a dans ma tête, c'est aussi une chance, en fait. Donc, ouais, réaliser les clips, pour moi aussi, il y a quelque chose de jusqu'au boutiste, quoi.
Dans ton association là, qui s'appelle Les Doigts dans le Zen,
ouais, c'est ça.
Tu es tout seul ou tu as fait venir d'autres artistes?
Non, c'est pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment voué à produire mes disques, quoi, enfin, voilà, mes productions. Après, ça n'a jamais été fermé à l'idée d'aider des copains ou quoi, mais en fait, on fonctionne un peu tous comme ça. Hein. tous mes potes sont un peu en indépendant comme ça.
Et c'est facile de se produire en dehors du système?
Bah non, clairement, il faut... Voilà, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Et puis mais c'est ça, c'est ce que je disais, c'est je ne considère pas avoir un métier, donc du coup, je donne volontiers ce temps.
Un métier, pourquoi? Parce que la chanson, c'est un art mineur, comme disait Gainsbourg?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut juste pas... Je pense qu'il faut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et si on se prend trop au sérieux, c'est l'autoroute vers la grosse tête. C'est se branler l'ego pour rien. Et il faut être humble, en fait. Les gens qui vont à l'usine, eux ont un emploi. Nous, on n'a pas un emploi. On est là, on va rencontrer des gens. On est payé pour aller faire des ateliers dans des écoles ou faire des concerts, chanter devant 1000 personnes qui vont reprendre en chœur un truc. Enfin, je veux dire, bon, il faut raison garder. Je suis d'accord pour dire qu'il y a un effort fourni, que je travaille mes textes, que j'écris, je recommence, je refais, je suis un besogneux. Mais voilà, on ne me retirera pas de l'esprit que je ne suis pas à l'usine, quoi.
Ouais, puis t'es complètement indépendant, quoi. C'est ça qui est bien, parce que tu rentres pas dans un système avec les maisons de disques, les producteurs, tout ça. Ça fait penser un peu aux Beru, dans les années 80, les punks ont commencé à être ce qu'on appelait underground, hein, c'est ça, hein,
donc, bien sûr, mais de toute façon, si j'étais né 10 ans avant, j'aurais fait du punk, hein.
Ouais, t'aurais été dans cette mouvance-là.
Bon,
ouais.
Je pense, clairement, les copains que j'ai dans la musique, c'est justement La Rue qui est à nous, Les Ogres de Barbac, des gens que je respecte pour ça, les têtes raides, des gens comme ça avec qui je m'entends humainement et qui résonnent en moi alors que je viens du rap et donc, on va dire, d'une génération plus loin, quoi.
Mais ça a commencé dans les années 80 avec l'arrivée des radios libres. Sans ça, avant, c'était pas possible.
Non, non, mais bien sûr que ça a joué un énorme rôle et surtout... Encore aujourd'hui, quand on fait la promo d'un album, je demande, moi, directement aux attachés de presse de contacter les radios locales. Je me fous totalement des radios nationales. Les médias nationaux, finalement, vont, ça va être un relais une fois, comme ça, mais c'est juste pour écrire sur le dossier de presse. Bon, ça m'intéresse plus, ça, d'aller chercher cette espèce de faux Graal, quoi.
Ouais, bah nous, on a de la chance de t'avoir, parce que c'est vraiment par hasard, c'est grâce à Fred, notre collègue qui intervient dans les écoles, hein, Fred Eux, qui nous a dit « Oh, je connais un artiste et tout. » Voilà, bon, on s'est dit « Ok, banco, on t'invite, on fait connaissance avec toi. » Et on le regrette pas, parce que on est bien content de faire ta connaissance.
Ouais, nous, on ne demande que ça, parce que c'est les artistes qui ont des choses à dire, quoi.
Ma foi.
On aime bien ça.
Voilà.
On n'est pas trop variété, mais bon...
Voilà. Moi non plus, je dois avouer.
Non, puis on doit avouer que des rappeurs, on n'en a pas souvent. Hein.
On avait eu
un rappeur, Novi.
Ouais, c'est plutôt du slam. Hein.
Oui, c'était un peu slam.
Novi, c'était du slam. On a un peu tous les genres, il n'y a pas de...
Mais voilà, donc on est ouvert à tout style de musique.
Voilà. Hein, voilà.
Et justement, là, donc, Sylvain, tu vas où après là? Parce que tu voyages dans toute la France, si j'ai bien compris. Là.
Ah bah oui, oui. Du coup, j'ai lancé un appel sur Facebook en septembre dernier parce que l'intermittence du spectacle, c'était compliqué avec l'année blanche et tout ça.
Ouais.
Bon, voilà, je me suis dit... Là, je ne vais pas refaire de concert de manière simple et fluide avant un moment. Et je me suis dit que j'allais demander aux profs qui me suivaient sur les réseaux, peut-être, de me faire venir dans leurs écoles, voir si on ne peut pas organiser des projets d'action culturelle, etc. J'ai eu plein de réponses. En fait, c'était super. Je n'ai pas arrêté depuis novembre de faire des ateliers quasi toutes les semaines. Donc là... je suis à Crépy-en-Valois. Hier, j'étais à Orléans. Le jour d'avant, j'étais à Issoudun.
Ah oui.
Et en fait, je vogue toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Donc ton bilan carbone, il n'est pas terrible alors.
Je prends le train, moi.
C'est bien, là.
C'est bien.
Si je pouvais le faire à vélo.
C'est bien parce que dans le train, on a le temps de réfléchir, on a le temps d'écrire.
Ah, j'écris. D'ailleurs,
c'est ça. Ouais, voilà. T'en profites, là, ouais.
Ah ouais, bah, on m'a commandé l'écriture d'un livre. Donc du coup, j'écris mon bouquin pas mal dans le train. J'ai des plages de 3 heures, 4 heures où je peux du coup me poser et puis... écrire. Et puis c'est bien d'être en partance, d'être en itinérance comme ça, tout le temps en voyage. Moi, ça me nourrit. J'ai découvert le voyage grâce à ma musique, mais c'est vrai qu'être en mouvement, c'est ça aussi que je voulais dans ma vie, quoi. Ça nourrit ce que je suis en train d'écrire, c'est sûr.
Tu peux nous parler de ton processus
Justement,
attends, ouais, voilà,
une seconde.
Vas-y.
Parce que, comme il parlait de voyage quand même, mm-hmm. T'as voyagé pas mal dans le monde.
Oui.
T'es parti faire
Oui,
à la découverte.
Ouais. C'est venant d'un quartier ouvrier sans faire le Calimero, on partait pas en vacances. Hein.
Ouais.
Je suis d'une famille nombreuse, donc voilà, c'était compliqué. Et la musique a fait que j'ai pu découvrir la France, tout simplement. Déjà, je connaissais pas la France. J'ai tracé les routes. Pour faire des concerts et j'ai découvert mon propre pays et en faisant ça je me suis retrouvé à faire des concerts en Belgique, en Suisse et puis rapidement en Allemagne et je me suis dit mais alors en fait les gens peuvent ressentir quelque chose devant un concert alors qu'ils ne parlent pas la langue et j'ai été touché par le virus là. Je suis allé faire des concerts dans d'autres pays où on m'a proposé le Brésil, la Chine
Italie, États-Unis, Madagascar, Allemagne, Tunisie, Arménie, enfin bon.
Ouais, après j'ai profité de cet élan-là pour partir faire le tour du monde, en fait. Je profitais de l'intermittence du spectacle et de la thune que ça me ramenait. J'achetais des billets. Et puis, quand j'étais pas en concert en France, je partais avec mon sac et j'allais visiter des pays. Et je rencontrais des musiciens, en fait, à l'étranger. Et j'ai fait un album comme ça, en rencontrant des musiciens traditionnels un peu partout dans le monde.
Ah ouais, donc ça enrichit en plus ton univers musical, quoi. Ouais, donc.
Ouais, mon quatrième album qui s'appelle Les Cités d'Émeraude c'est un puzzle en fait. J'avais des chansons, je les faisais écouter au casque à des musiciens que je rencontrais dans un parc, dans un resto, ou alors par contact interposé et je les enregistrais avec un enregistreur portable, avec un Zoom ou mon ordi. Et du coup, je me retrouvais à avoir des pistes comme ça d'un violon chinois, d'une percussion aux États-Unis, sur le même morceau. Et ça m'a tenu pendant 2 ans, ce projet, et j'ai adoré, quoi.
Ouais. Les Cités d'Émeraude, c'est copié sur Les Cités d'Or.
Alors,
le dessin animé qu'il y avait dans les années 80.
Il y a ce côté un peu découverte de cités mayas. En fait, l'idée est née d'un bouquin que j'ai lu de Claude Lévi-Strauss qui s'appelle « Triste Tropique ». Et qui raconte l'expérience de cet anthropologue au milieu des Indiens d'Amérique quand ils n'étaient pas encore découverts, puisqu'il y en a, enfin, des Indiens d'Amérique du Sud qui vivaient dans la jungle, etc. Donc des tribus, des peuplades qu'on a aujourd'hui tuées à base de déforestation, mais qui en 1930 étaient encore inconnues et qui n'avaient jamais vu un occidental. Et ce rapport-là, il l'a déroulé pendant tout son bouquin en expliquant, finalement, en étant le premier d'ailleurs à l'expliquer, qu'il n'y avait pas de civilisation supérieure et que toute cette mythologie de l'Amérique du Sud, en effet, quand j'étais petit, il y avait les cités d'or. Et c'est tout un truc. Les cités d'émeraude, il y avait ce truc de pierre précieuse. Et il se trouve que j'ai les yeux verts. Donc, du coup, l'émeraude, pour moi, ça disait aussi quelque chose. C'est que quand on voyage, on part se rencontrer soi, en fait. Et à travers l'autre, on apprend ce qu'on est.
Et est-ce que tu transmets ça à tes enfants, ton parcours, est-ce que tu vas leur donner envie de voyager, de découvrir le monde?
Ah ils vont être obligés d'ailleurs.
Ouais. C'est marqué dans le
ils diront pas interdiction d'aller à la fac s'ils n'ont pas fait un voyage. Non mais
qu'est-ce que c'est que cette éducation? obligé. Alors que lui, il a fait ce qu'il a voulu. Il va obliger ses gosses. Ouais. Non mais c'est un paradoxe.
Non
quand
mais
même.
Je pense qu'il a fallu que je me fasse violence pour le faire. Donc évidemment, si je peux leur offrir. Le sage le ferait, quoi. Mais bon, ils n'ont pas le même parcours que moi, ils auront bien leur vie et bien leur choix, et c'est super comme ça. Mais c'est vrai que j'essaie au maximum de les ouvrir à tout simplement.
Ouais, faut être curieux, quoi, ouais.
La curiosité.
Ouais. Oui, Hervé, tu veux qu'on mette un troisième morceau, c'est ça?
Bah, je sais pas, c'est peut-être écoute, le moment, non?
C'est peut-être un numéro, enfin un morceau adapté, c'est la transhumance.
Eh bah oui, allez. Ça parle de parce voyage que, et ah, ça, bah, parle, voilà. Ça parle d'école.
Ça parle d'école. Allez. Donc, eh ben, on y va, c'est pour vous les auditeurs.
Un enfant est un génie, il sait marcher, il sait parler tout seul, il est à l'école, bizarrement, il sait plus rien faire.
Allez, c'est bon, je m'arrache du rang. Je rends ma tête de bison, deviens dérangé. J'ai pas de vision sur le système, non, j'en suis étranger. Petit, on passe notre temps à choisir quoi faire quand on sera grand. Quand on est grand, on ne fait que regretter la grandeur de l'appel du danger. J'ai vu l'immensité des fossiles cadenassés par la transhumance. La foule en transe qui marche tout droit et aime la danse du mensonge. Plutôt que de subir le cancer de l'accoutumance, j'imite les mésanges, je ne rêve pas de vie, mais je poursuis mes songes. Avec des instruments et des livres jetés à l'arrière de la diligence, je roule sur trois grains de poussière et m'en vais explorer les sentiers de l'intelligence. Sans indulgence, je file à l'ouest, à l'opposé des coupes aux indigents. Un peu les gentiments, la masse sous les gens, mangeurs de brume, qui préfèrent la fortune au bouillon de l'écume. Et les gloires posthumes, un rayon de lune l'enclume. Le marteau des coutumes, coudons mon costume. Si je n'accepte pas le courant et les plumes. Ma folie leur prépare du goudron et des plumes.
Sur RVM 93.7 et c'est votre émission Artistes en Liberté qui reçoit aujourd'hui Cyrano. Donc Hervé, nous venons d'écouter la transhumance.
Oui.
Est-ce que ça te parle la transhumance?
Moi je connais la transhumance parce que souvent je vais dans l'Aveyron. Je connais ça.
Tu vois les moutons, tu vois tout ça.
Je vois la transhumance, ouais, voilà. Qui est les vaches, même les vaches qui vont en alpage au mois de mai.
Et oui.
Voilà.
Mais c'est ça, hein, c'est le.
C'est un peu ça.
C'est ce que je voulais dire dans le morceau, j'utilise ce mot-là parce qu'on parle de troupeau, quoi.
Ouais.
Et que j'emprunte une phrase de Dupontel dans l'intro qui parle de ça, qui dit que les enfants au départ sont tous des génies et qu'en fait on en fait un troupeau à l'école, quoi. Et je parle de cette espèce de conditionnement, de formatage sociétal de l'être humain en masse. Et c'est
ce qu'avait dit le général de Gaulle.
Ah, mais oui, voilà, ah, bah, oui. Tu vois, les grands esprits. Bah, il n'a pas dit des conneries. Hein.
Ah, non. Donc, Hervé, ouais. On rentre dans le détail de la compo. Comment ça se passe?
Ouais, moi, je voulais savoir quelles étaient un peu tes influences, que ça soit artistique ou que ça soit au niveau de l'écriture.
Eh ben, je sais
la
pas.
Musique, la musique.
C'est la, ouais, c'est vrai que j'arrive à différencier les deux. Souvent, en fait, moi, je considère que la musique, quand je vais composer vraiment juste les notes, en fait, ça va être une atmosphère, une ambiance qui va venir soutenir ce que j'écris. Et donc, je pars souvent d'une idée de chanson. Par exemple, je prends un exemple. Hein, sur mon deuxième album, il y a un morceau qui s'appelle Origami, où je parle des sans-papiers.
Ouais.
Et où je prends des papiers d'identité que je plie pour faire
des origamis. Ouais.
Et l'idée du texte, c'est celle-là. Et je me dis, bah, en fait, dans cette chanson, il y a une grande idée de métissage, en fait, de mélange et de mélange de culture. Donc ce que j'ai fait, c'est que musicalement, j'ai mélangé du clavecin, du violoncelle, avec des rythmes de raga et des rythmes africains. Et en fait, j'aime cette espèce d'illustration presque cinématographique dans ma musique, de ce que je vais raconter dans mes textes. Ce qui fait que beaucoup de mes chansons se retrouvent sur des albums très éclectiques, où il y a des morceaux qui vont être de la chanson plus traditionnelle, et d'autres beaucoup plus rappées, par exemple, et d'autres musiques du monde, blues, folk, voilà.
Parce que, tu nous as dit tout à l'heure hors antenne que tu étais un inconditionnel de Brassens.
J'adore Brassens, ouais.
Brassens disait toujours que la musique soutient les paroles sans jamais passer devant.
Mais,
c'est un peu ça.
Mais oui, je pense que ça, c'est une vision très, très francophone de la musique. Parce que même de la façon dont on va mixer un album de chansons françaises, on va mettre la voix au-dessus, alors que les anglo-saxons vont mettre la voix à l'intérieur du mix et vont se servir de la voix comme d'un instrument. Et d'ailleurs, souvent, on se rend compte que, évidemment, à de grandes exceptions, mais les textes sont moins importants dans la culture,
anglo-saxonne.
Ouais. C'est une musicalité d'abord, et puis après, on va être sur le thème de la chanson, etc. En France, on peut très bien avoir des gens comme Ferré qui ont fait des carrières avec des morceaux de 18 minutes où du texte est scandé. D'ailleurs, c'est presque du rap déjà, ouais, à l'époque. Brassens, un peu de la même manière, qui n'était pas un extraordinaire chanteur à voix, etc., mais qui était tellement ciselé dans son expression que du coup, c'est magistral, c'est magique. Et pour autant, on a aussi des brels, des gens qui vont être dans l'interprétation, dans le fait de vivre ce qu'ils sont en train de raconter, quoi. Mais ça, c'est des vraies influences, je pense, d'héritage. Après, évidemment, le rap dans sa culture, on va dire, large, ça fait partie de mon ADN. J'ai découvert vraiment, j'ai eu envie de devenir professionnel, on va dire, en écoutant IAM. C'est
précurseur.
Vraiment le début des années 90, quoi. Mais je peux écouter aussi énormément d'autres choses. Donc, je vais parfois être inspiré par Pink Floyd, Led Zeppelin.
Ça nous parle plus.
Des jeunes.
Non, mais alors pour le coup, il y a énormément de groupes actuels aussi qui m'inspirent.
C'est des groupes qui existaient quand tu n'étais pas né encore.
Ces groupes-là, en l'occurrence, oui, c'est clair. Ouais. Mais oui, mais c'est atemporel. C'est comme David Bowie, en fait, il n'y en a pas 30. Alors, David Bowie, justement, ça me fait rebondir sur un autre groupe qui s'appelle Arcade Fire, que j'adore, qui est de Montréal, et qui a cette facilité à faire passer le rock jusqu'à la pop, mais en même temps, en utilisant des codes et en les rendant extrêmement singulier. Et je trouve ça ahurissant. Là, j'ai vu en concert la semaine dernière un groupe qui s'appelle Other Lives, qui est d'Oklahoma City. Et c'était incroyable. Et c'est pareil, d'un seul coup, on peut se nourrir de choses comme ça. J'adore tous ces groupes, de cette espèce de scène folk rock américaine. J'adore un artiste qui s'appelle Sufjan Stevens, qui fait de la folk très, très imagée aussi. Plein d'influences.
Tu te nourris un peu partout, quoi. Ouais, c'est ça. Hein.
Quand on est artiste, on est une éponge.
Ah, je crois. J'ai beaucoup de mal avec l'idée qu'on puisse faire du beau pour du beau.
Qu'on puisse faire du beau tout seul.
Voilà.
Sans avoir les autres derrière qui.
Ah,
toutes les générations avant qui t'ont poussé.
Ah, ça, c'est sûr et certain. Je pense que de toute façon, presque on. on n'invente pas grand-chose, quoi. On est dans un perpétuel ressassement, et puis on reprend des codes, on réinvente. Là où le rap a été vraiment une révolution, c'est juste qu'on a samplé, qu'on est venu casser des morceaux existants, qu'on a changé la façon de faire de la musique. Et pendant longtemps, on a été une culture d'analphabète, et voilà, on se rend compte que peut-être qu'il y a des choses à dire, et que c'est un vrai mouvement artistique à part entière, avec des gens du mouvement hip-hop large qui vont aller dans des scènes nationales faire de la danse, ou dans les musées faire de la peinture.
En dehors de tes goûts musicaux, tes goûts au niveau de la littérature, c'est quoi?
Ils sont pas très très larges, parce que je suis pas un grand lecteur, c'est ce que je disais, mais je lis pas de romans, par exemple. Je n'arrive pas à me projeter dans une histoire.
Ah ouais.
Alors, ce qui est totalement débile, puisque je suis en train d'écrire un bouquin, et que c'est pas de la fiction, puisque je raconte beaucoup de mon existence, mais en effet, quand je lis de la fiction ou un roman, j'ai beaucoup de mal. Par contre, je lis des essais. Je vais lire des livres sur sur l'anthropologie, l'histoire des religions, la physique quantique, je sais pas, ce genre de trucs obscurs. Mais je trouve ça passionnant, et j'apprends, en fait, et j'adore cette sensation de me nourrir de ce que je lis et de ce qui me vient. Alors, la seule exception, ça va être la poésie. J'adore Victor Hugo. Voue un culte à Victor Hugo. Les Châtiments, ça m'a nourri. C'est souvent un exemple que je prends dans les ateliers que j'anime dans les écoles.
Et donc, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, tu partiras.
Voilà, j'en connais aucun par cœur. Mais, mais ouais, c'est vrai que j'adore. Ça m'a retourné, c'est clair.
Ah ouais. Et donc, tu as des projets, là, pour ce printemps, cet été? Est-ce que tu as des dates de prévues ou pas?
Eh bien, on a quelques concerts qui arrivent. Des concerts assez éparses, mais... L'idée, pour moi, elle a été de laisser passer la tempête là, du Covid, d'attendre que tout rouvre de manière absolument certaine, de ne pas avoir à faire de report. Et en fait, je pense sortir des morceaux ponctuellement, mais avec un rendez-vous genre une fois tous les mois. Je ne sais pas encore décidé, mais je pense qu'on va faire ça. Et puis, attendre l'année prochaine pour sortir un album au printemps. Et là, organiser une vraie tournée quand ce sera de nouveau rouvert, quoi. Parce que là, c'est le goulot d'étranglement, on peut témoigner de ça quand on est artiste. Tout le monde veut tourner en même temps, c'est rouvert, donc tout le monde veut aller faire des concerts, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde, quoi.
Tu dis on, là, tu peux nous parler un peu du collectif 13, du coup, là, puisque tu n'es plus tout seul?
Eh bien, en effet, on a fédéré nos plumes, mais je parlais de la rue Quétanou tout à l'heure. Il y a un des membres de la rue Quétanou qui fait partie de ce collectif, qui s'appelle donc Collectif 13, et qui m'a invité à rejoindre la colonie de vacances, qui est composée d'un chanteur qui s'appelle Ali, qui est de Rennes, d'un membre de Massilia Sound System, de deux membres du groupe Trio, d'un groupe qui s'appelle Le Pied de la Pompe, et d'un membre d'un groupe qui s'appelle Le Petit Son, qui m'a rejoint maintenant aussi sur scène, moi, qui s'appelle Maxime Raguin. Et d'un DJ qui s'appelle Hors d'œuvre, qui est champion du monde de DJing depuis cette année.
Eh bien, voilà. Tu t'entoures pas avec n'importe qui, là, je vois ça. Hein.
Ah ben, c'est la vie qui nous a fait nous rejoindre. Mais c'est vrai que c'est des gens qu'on croise sur scène, dans festivals, etc., parce qu'on s'est construit par la scène. Et on s'est retrouvés à se dire les uns les autres tout le temps, bah voilà, on fait des morceaux ensemble, par-ci, par-là. Est-ce qu'on n'irait pas faire une tournée ensemble? Et finalement, ça a donné lieu à deux albums et...
Moi, j'ai eu la chance de voir Massilia l'année dernière, donc ils étaient de nouveau vers Solidaire, donc à côté de Lan, voilà. Donc, ça envoie, hein. Ça met une ambiance. Hein.
Ouais, ouais. Les gars ont entre 50 et 60 ans.
Mais sur scène, ils les ont plus. Hein.
Ah non, ouais. C'est génial, j'adore. Ouais, ouais.
Est-ce que c'est mieux ensemble ou c'est mieux tout seul?
C'est différent et c'est ça qui est bien. C'est que on est obligé d'être dans une espèce de compromis, donc on n'est pas sur les mêmes thèmes, sur les mêmes façons d'aborder les choses, puisque vraiment nous on le vit comme une sorte de colonie de vacances, quoi. Et tant que c'est basé sur cette idée de partage et d'engagement commun, c'est formidable, quoi.
Pour les gens qui te découvrent aujourd'hui chez nous, là, comment on peut te rejoindre?
Partout sur Internet, hein, c'est le plus simple. Hein. Donc il y a mon site cyrano.net, S-Y-R-A-N-O.net. Après, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, c'est sur Cyrano officiel.
Tu peux acheter tous les albums que tu as produits.
Tout à fait.
Combien d'albums, en fin de compte, alors ça t'en fait combien, là ?
Eh bien, j'ai sorti le 7e.
Ah ouais, quand même, 7 albums. Ouais.
7 albums, 2 livres pour enfants, et voilà.
Et sur tous les albums, le graphisme qui est dessus, c'est toi qui l'as fait aussi.
Voilà, exactement.
Ok, donc la pochette que j'ai devant moi, c'est toi qui l'as faite alors ?
J'ai réalisé tout, oui.
Ok, d'accord.
Là, en l'occurrence, c'est une photo de famille, donc c'est une photo de moi petit.
Mais les autres, c'est plutôt un visage, plutôt ton visage un peu transformé, puisque
c'est
graphique.
C'est en fonction du fil conducteur de l'album. Je vais un peu loin des fois. J'ai un album qui s'appelle Le Goût du Sang.
C'est un peu rouge.
Voilà, qui s'appelle Le Goût du Sang, ouais. S-A-N-S. Mais je l'ai peint avec mon sang pour de vrai. Pardon.
Ah ouais, quand même. Et donc, chez toi, tu as quoi ? Tu as un studio ? Tu as quelque chose ? Comment tu bosses la finalisation de tes projets ?
Je bricole exactement de la même manière que quand j'avais 7 ans. C'est-à-dire que j'ai quelques instruments, un petit peu plus pro qu'à l'époque, mais j'ai une petite carte son, mon ordi, et puis en fait, je fais tout avec des petites percus, des petits claviers, tout ça. Et puis, j'envoie les pistes à mon accordéoniste, Patrick Nola. Je lui dis « Allez, vas-y, c'est ton tour ». Et du coup, il enrichit avec l'accordéon. Soit je lui donne la mélodie, soit je le laisse trouver. Et puis, c'est comme ça qu'on construit les albums. Là, je pense que le prochain, on va même s'isoler dans un gîte avec justement les nouveaux musiciens et puis faire le disque en autarcie, quoi. Essayer de travailler de cette manière-là. J'ai toujours rêvé de le faire, donc je me dis c'est le moment.
Donc l'actualité actuellement, elle est très chargée, malheureusement pas dans ce qu'on aurait souhaité, hein, bien sûr.
Bien sûr.
Est-ce que ça t'inspire, les présidentielles, la guerre en Ukraine, tout ça ? Est-ce que ça peut être une piste pour toi ou...
Je suis pas trop dans les sujets d'actualité. Généralement, j'ai la sensation que ça voue les chansons à être périmées rapidement. Et par contre, ce que ça sous-entend comme questionnement humain m'interroge toujours. Des chansons sur la guerre, j'en ai fait, mais là, ce qui m'interroge, c'est surtout la façon dont les gens vont pouvoir réagir à l'émotionnel et puis s'engouffrer dans des jugements hâtifs, ne pas réfléchir et ne pas chercher les responsabilités exactes de tout le monde, comment ça fonctionne et ce qui se passe. La géopolitique, c'est absolument jamais manichéen et malheureusement, on est victime de ça et on est victime d'une certaine forme de propagande. Donc voilà, que ce soit... que ce soit admis comme étant quelque chose de complotiste ou quoi, j'en ai rien à foutre, c'est une réalité. C'est juste, je ne suis absolument pas pro-russe, c'est juste que je me pose la question sur la légitimité des États occidentaux à aller faire de l'ingérence en Ukraine, quoi. Après, ça, voilà, c'est un débat qui est sans fin, mais l'ingérence américaine, européenne, a fait beaucoup de dégâts et beaucoup de morts à travers le monde. Donc, je pense qu'il faudrait nettoyer devant notre porte avant de...
Voilà. Hervé, je te laisse conclure.
Génial pour conclure.
C'est facile à conclure après ça.
Voilà. Justement, on va finir en musique, comme ça, on aura une belle conclusion. Voilà.
Pour nous, c'est encore une belle découverte. Hein.
Ouais, merci, Cyrano.
Donc, merci
un peu de temps pour nous. Hein, voilà.
Si tu as l'occasion...
J'avais rien à faire, j'ai vu de la lumière, je me suis dit...
Tu reviens dans la région dans quelques temps ou pas ?
Si on m'invite, moi je viens, hein, mais... on va voir comment ça va se passer justement quand on va réorganiser la tournée, mais d'ici la fin de l'année et le début de l'année prochaine.
Tu reviens avec des copains, tu reviens avec le collectif 13
Voilà.
Il n'y a pas de problème.
Avec grand plaisir.
On a des pistes à te proposer, tu vois.
Il y a plein de pistes, il y a plein de choses.
Et pour faire la conclusion à votre place, les gars, le dernier morceau parle justement du fait de rester vigilant et de garder une certaine foi dans un esprit de lutte et de combat. Le morceau s'appelle Un chien n'aboie qu'une fois, et c'est pour dire vous avez.
C'est pas anodin ce choix, alors voilà. Hein. Merci Hervé.
Eh bien, merci Cyrano.
Voilà.
Merci pour
Cyrano,
vous.
Merci Sylvain. On se dit à bientôt sur les ondes de RVM. Donc,
au mois prochain.
Musique, hein. Et puis les auditeurs, soyez vigilants. Hein. N'hésitez pas à aller voir le site de Cyrano pour découvrir tout son travail, puisque c'est riche. Hein. Donc, il y a de quoi découvrir. Bye bye.
Allez,
merci.
Bye bye.
Salut. Au revoir.
Ne me donne pas d'espoir, j'en ferai des combats, des perdus d'avance qui ne résonnent qu'en moi. Les seuls qui font le lien entre le rêve et le granit, qui me rattache encore au silex et à la manite.
Ne me donne pas l'horizon, j'en ferai ma maison, ouverte aux quatre vents, sans mur, sans clé et sans cloison. Un domaine où l'amour sera roi, où les lois seront écrites à la plume de Brel ou de Barbara.
Ne me donne pas de temps, j'en ferai de la liberté, j'y apprendrai à cultiver un peu plus d'autonomie, d'esprit et d'idées, moins téléguidé. Je profiterai enfin de la monotonie.
Ne me donne pas ta parole, moi j'en ferai ma voix, je la détournerai au gré de ton émoi. Quelle que soit cette vie, pourvu qu'elle nous ressemble, quelle que soit ton avis, pourvu qu'elle nous rassemble.
Je ne veux rien recevoir de l'indigne main qui m'a rossé. Peux-tu oser sans mémoire
un chien à boire qu'une fois?
Rien ne va plus m'émouvoir. Ramasse des apparats cabossés, oublie tes petits pouvoirs.
Un chien à boire qu'une fois.
Un chien à boire qu'une fois.
Ne me donne pas tous ces mots, j'en ferai des poèmes, des mariages de son petit dans mon harem, polygame de la rime, même si des arrimés, maître du jeu de mots en lettres chevaliers.
Ne me donne pas de chagrin, j'en ferai des revanches, des vendettas, des battus face au vent, pas de débat devant l'école sans dimanche, l'état d'émotion mais pas de sentiment.
Ne me donne pas ton silence, moi j'en ferai du bruit, tapant sur des tambours, je pousserai des cris, sonneur d'alarme, donneur d'alerte ou chasseur d'avis, j'irai remplir le vide qui comble tes soucis.
Ne me donne pas de coups, j'en ferai du cuir, des vêtements neufs et de la dignité, le menton assez haut pour regarder courir les lâches et les capitaux devant l'égalité.
Je ne veux rien recevoir de l'indigne main qui m'a rossé. Peux-tu oser sans mémoire
un chien à boire qu'une fois?
Rien ne va plus m'émouvoir. Ramasse des apparats cabossés, oublie tes petits pouvoirs.
Un chien à boire qu'une fois.
Un chien à boire qu'une fois. Non, ne me donne pas de laideur, j'en ferai du beau et un peu de poésie. Je vais encore bâtir si tu me nourris. Ne me donne pas, 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 pas. Non, ne me donne pas de rigueur, j'en ferai des mômes qui n'obéissent qu'à la vie. Plus tu vas me battre, plus grandira ma folie. Ne me donne pas, 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 pas.
En liberté. Une émission goupillée par Fred et Hervé qui vous fait découvrir, dans les conditions du direct, les artistes locaux.